France Musique. Musicopolis. Christine de Suède, mécène baroque. Quand même être une sacrée bonne femme pour 1. Devenir roi de Suède, 2. Abdiquer, 3. Se convertir au catholicisme et 4. Vivre en femme libre dans la Rome papale du XVIIe siècle. La vie entière de Christine de Suède est hors norme. Mais le moment le plus extraordinaire est peut-être son entrée dans Rome le 23 décembre 1655. Elle arrive d'Innsbruck où elle s'est convertie officiellement au mois de novembre lors d'une cérémonie publique sous la protection de l'archiduc Ferdinand de Habsbourg. Trop heureux de crier à la face du monde cette nouvelle prodigieuse qui est la conversion d'une reine protestante dans une Europe ravagée par la guerre de 30 ans qui vient juste de se terminer. Le pape Alexandre VII avait proposé d'accueillir Christine de Suède à Rome à la condition qu'elle soit d'abord convertie publiquement. Une fois la chose faite, Alexandre veut mettre en valeur ce moment incroyable et inespéré. Il a demandé et fait en sorte que partout sur le trajet entre Innsbruck et Rome, Christine soit accueillie dans des villes pavoisées. Son voyage n'est qu'une longue procession agrémentée de divertissements et de musique. Et le clou du voyage est bien sûr l'entrée dans la capitale papale. Alexandre VII a été jusqu'à demander aux Bernins de transformer la façade de la Porta del Popolo pour donner encore plus de faste à ce moment. Dès son arrivée à Rome, la reine Christine de Suède est prise dans un tourbillon de cérémonies diverses. Le pape Alexandre VII la reçoit pour la communion le jour de Noël et l'établit comme si elle était encore une monarque régnante. En signe de gratitude, Christine ajoute à son prénom celui d'Alexandra. Puis, les célébrations en son honneur continuent. Parmi les réjouissances, on organise pour elle des représentations d'opéra. Deux de Marazzoli, qui lui dédie son La Vita Umana, joué au Palais Barberini. Un autre opéra de Tenaglia, et joué au Palais Pamphili. Enfin, au Collegio Germanico, le collège du Jésuite, on donne pour elle un oratorio de Carissimi. Une fois installée au palais Farnèse à Rome, la reine Christine va pouvoir reprendre ses activités de mécène et de protectrice des arts, telles qu'elle les a pratiquées depuis son plus jeune âge. Profitons-en pour faire un petit retour en arrière. Comme héritière du trône de Suède, Christine a vécu dès son jeune âge dans une cour qui, bien sûr, disposait d'une chapelle avec chanteurs et musiciens. La dite chapelle avait été très germanisée par l'arrivée de musiciens allemands venus se réfugier en Suède pendant la guerre de 30 ans. À l'âge de 6 ans, Christine de Suède hérite du trône à la mort de son père, Gustave Adolphe, sur un champ de bataille. Christine étant la seule enfant, donc seule héritière du roi, celui-ci avait obtenu dès sa naissance l'accord de la noblesse pour supprimer la dévolution exclusivement masculine du pouvoir. Et en conséquence, la petite Christine a été élevée à la fois comme une princesse et comme un prince. Selon la volonté de son père, pour l'aider à régner, le titre de Christine n'est pas « reine », mais « roi de Suède ». La jeune fille a un fort caractère, elle a une énorme force de travail. Elle étudie les langues, vivantes et mortes, l'histoire, les arts, musique, dessin, peinture. Elle pratique bien sûr les exercices physiques, escrime, équitation et son sport favori, la chasse à l'ours. Dès ses 10 ans, elle a engagé un maître à danser français. La danse est un élément obligatoire d'une éducation soignée pour les nobles, filles ou garçons. La danse française est déjà très à la mode en Europe. La Suède est alliée à la France depuis la guerre de 30 ans. Donc, un maître français, c'est la moindre des choses. Christine de Suède atteint sa majorité à 18 ans, en 1644. La rage de la danse française sévit alors à Stockholm. Son maître à danser ne lui suffit plus, elle fait venir 6 violonistes français qui vont recréer pour elle un peu du répertoire de la cour modèle du tout juste défunt Louis XIII. Thank you. La jeune Christine de Suède fait l'admiration de tous par son intelligence, son savoir, son érudition. Elle se tient très au fait des différents courants de pensée et de culture de son époque. C'est ainsi qu'elle correspond avec moult penseurs et philosophes et qu'elle fait venir Descartes à Stockholm pour qu'il l'entretienne de philosophie et de mathématiques. Pour montrer que sa cour est l'égale des grandes cours européennes, elle fait représenter des ballets tout aussi politiques que ceux qu'on peut voir au Louvre à Paris. En 1647, elle confie à un architecte italien, Antonio Brunati, le soin de construire un théâtre dans son château de Stockholm avec une immense salle de ballet. Elle envoie en France l'un de ses proches, le comte de Lagardie, pour y étudier les plus récentes techniques du théâtre et les équipements les plus modernes. L'inauguration a lieu en avril 1649. Et cette année-là, trois ballets de cour y sont dansés. Les Passions victorieuses et vaincues en avril, Le vaincu de Diane ou La Diane victorieuse en novembre et La naissance de la paix en décembre pour l'anniversaire de Christine. On ne connaît pas les compositeurs des ballets représentés chez Christine de Suède à Stockholm, mais on sait que les sujets, très politiques, étaient une manière pour elle de se présenter au monde. Le premier ballet traite de la subordination des passions amoureuses, nécessaires pour que la reine gouverne avec honnêteté et compétence. Le deuxième, la Diane victorieuse, laisse entendre qu'elle ne désire pas se marier. Le troisième célèbre la paix de 1648. Et pendant tout ce temps, Christine se tient très au courant des modes européennes. En 1652, elle engage à la cour une troupe de musiciens italiens. Les causes de l'abdication de Christine de Suède sont certainement multiples. Parmi elles, probablement son désir de se convertir au catholicisme. Or, après la paix de Westphalie, était entériné le fait que la population d'un État devait embrasser la religion de son souverain. Et justement, les Suédois, luthériens convaincus, eux, n'avaient aucunement le souhait de devenir catholiques. Autre raison de l'abdication peut-être, la personnalité même de Christine, qui n'entendait pas respecter ce qui était attendu d'une femme à son époque. Ayant reçu une éducation de garçon, elle trouvait évidemment qu'il y avait beaucoup plus d'avantages à se comporter comme un homme. Et justement, les Suédois n'étaient pas prêts à accepter de leur reine un comportement aussi extravagant. Ce qui se comprend évidemment à l'aune des mentalités de l'époque. Mais bref, dès qu'elle a abdiqué, la reine Christine, libre comme l'air, choisit de faire l'école buissonnière sur les chemins européens. Elle passe par Anvers et bientôt elle arrive à Bruxelles, où on lui parle d'un opéra, elle n'en a jamais vu, que l'archiduc Léopold Guillaume de Habsbourg a fait représenter 5 ans plus tôt. Très intéressée, elle demande qu'on le monte à nouveau pour elle.
Fan così l'alme sagaci, che son le gioie, peno più fallaci. Fan così l'alme sagaci, che son le gioie, peno più fallaci.
La reine Christine est tellement subjuguée par le spectacle de l'opéra Ulysse de Zamponi, qu'on a repris pour elle à Bruxelles, qu'elle demande séance tenante à l'archiduc Léopold Guillaume de lui organiser une deuxième séance. Ce que l'archiduc accepte avec plaisir, trop content lui aussi d'une telle occasion. Il est probable qu'après ces représentations de l'Ulysse de Zamponi, la reine Christine se retrouve totalement mordue d'opéra. Pendant qu'elle est à Innsbruck, on donne pour elle l'Argia de Cesti. À nouveau, elle demande qu'on lui rejoue une deuxième fois. Arrivée à Rome, comme je le disais tout à l'heure, on organise pour elle plusieurs représentations. Néanmoins, la ville papale n'est pas le meilleur endroit d'Italie pour l'opéra, puisque le théâtre en général n'est pas en odeur de sainteté avec le pape. Et par exemple, il n'y a pas de théâtre public. Toutes les représentations sont organisées à domicile, dans les palais des grandes familles romaines.
Non si parli più d'amore, non si parli più d'amore, si diamando, si diamando, si diamando alla vita, e un trionfo nel mio cuore, la grandezza libertà, e trionfi nel mio cuore, e trionfi nel mio cuore, la grandezza libertà.
Installée à Rome à la fin de l'année 1655, la reine Christine va faire encore quelques voyages en France, en Suède et à Hambourg. Mais à partir de 1669, elle ne se déplacera plus et elle va devenir, avec Fast, une meneuse de la vie culturelle et musicale de Rome. Elle engage des musiciens, des chanteurs et des instrumentistes. Elle est la dédicataire de nombreux ouvrages de compositeurs qui profitent de ses largesses de mécènes. À son service, au moins un temps, on trouve Marazzoli, son virtuose de chambre, Mélanie, Castra qui chante pour elle, Pasqualini et Pasquini qui lui dédient des opéras. Dans son propre palais, aujourd'hui Palais Corsini, petite merveille de la Renaissance, elle se fait construire un petit théâtre où elle peut monter des pièces et des opéras. Mais ça ne lui suffit pas. elle réussit à obtenir du pape et du gouverneur l'autorisation de construire et d'ouvrir un théâtre public, le premier de Rome, le Tor di Nonna, qui est inauguré dans la plus grande magnificence avec une reprise de Scipione Africano de Cavalli, à elle dédiée. Christine de Suède dépense un argent fou pour de grands divertissements. Elle lutte pour la place de première mécène de Rome avec Maria Mancini Colonna. Et il semble bien qu'elle a la suprématie. Elle fait en sorte de conserver sa place de reine, même sans trône. Parmi les concerts extravagants qu'elle a réussi à monter, nous terminerons avec celui de 1687, donné à l'occasion de l'arrivée de l'ambassadeur d'Angleterre pour célébrer, avec 2 ans de retard, le couronnement de Jacques II. Elle réunit, ce jour-là, entre 150 et 200 musiciens qui vont jouer sous la direction du grand Corelli, qui a été un temps son professeur de violon. Le final du Concerto Grosso, opus 6, numéro 4, d'Arcangelo Corelli, Enrico Onofri et Riccardo Minasi au violon, Balázs Máté au violoncelle, le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.